Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Suite et deuxième temps d'une semaine sur Voltaire dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine, un auteur, un invité. Raymond Trousson, fin connaisseur du 18e et auteur d'une excellente biographie du grand Voltaire, parue chez Talendier. Une semaine au cours de laquelle on va évoquer le dramaturge, le conteur, le philosophe, mais ce serait mentir par omission que de passer l'épistolier sous silence. Voltaire est l'auteur de 22 000 lettres. À l'ère du mail et du SMS, un tel chiffre reste une performance. Impossible évidemment d'évoquer toute ou grande partie d'un tel ensemble, il a fallu choisir, c'était un crève-cœur parmi les destinataires de Voltaire, c'est la raison pour laquelle nous nous en sommes tenus à trois d'entre eux, Frédéric II, Diderot et Rousseau. Et puis tiens d'ailleurs, c'est avec l'ombrage Jean-Jacques que nous allons commencer cette émission. Jean-Jacques, étrillé par Voltaire, et c'est ici la voix de Sacha Guitry qui le commande, écoutez.
Il détestait Jean-Jacques, qui le lui rendait bien. Et, à propos d'un livre de lui, Voltaire lui écrit « On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. » Mais, si c'est dur, si c'est cruel, admirez du moins la loyauté de Voltaire. À quelque temps de là, les autorités suisses ordonnent que soit brûlé le livre de Jean-Jacques. Que fait alors Voltaire? Il lui écrit ceci. Je ne suis nullement d'accord avec vous dans ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire.
Rebonjour Raymond Trousson.
Rebonjour.
Rebonjour et bienvenue, hein, vraiment sur France Culture, au nouveau chemin de la connaissance. On passe toute cette semaine en votre compagnie, c'est-à-dire, d'une certaine manière, en compagnie de Voltaire. Y a-t-il plus différent de Voltaire que Jean-Jacques Rousseau?
Non, en effet, il est difficile de l'imaginer. Mais si vous le permettez, d'abord un tout petit correctif. Vous annonciez 22 000 lettres de Voltaire, c'est-à-dire 22 000 lettres envoyées et reçues. On estime qu'il y a environ 15 000 lettres écrites.
On chiffre à 15 300, les biographes les plus précis.
Oui, si vous voulez, 15
300. L'expéditeur, dirait.
En fait, voilà. Même probablement un petit peu plus, parce que l'estimation était faite à un moment où certaines lettres n'avaient pas encore été découvertes. Et on continue d'ailleurs à en découvrir. Et au fond, ce qui est intéressant pour cette correspondance, qui est certainement l'une des plus extraordinaires de toute l'histoire littéraire, c'est de s'interroger un petit peu sur les raisons pour lesquelles elle est aussi vaste. Parce que ce n'est pas rien, bien entendu. Il y a d'abord l'histoire de sa publication, puisque les contemporains, eux, bien sûr, ne connaissaient pas la correspondance de Voltaire. Alors, la première fois que des lettres de Voltaire, déjà très abondantes d'ailleurs, paraissent dans le public, c'est au moment de l'édition dite de Kehl, menée par Condorcet et par Beaumarchais à la fin du 19e, qui s'achève en 89, et où déjà on peut trouver 3500 lettres, ce qui n'est pas si mal, bien sûr. Au début du 19e, l'autre Rudy, Bechot, relance la chose avec 7500 lettres. À la fin du 19e, avec la grande édition de Louis Molland, qui durera pendant près d'un siècle d'ailleurs, on arrive à 10 000 lettres. Et puis en 53, un érudit anglais...
On a le sentiment à vous entendre que Voltaire les a écrites entre-temps, allez-y.
Oui, en effet, vous avez raison. Un érudit anglais, Theodore Besterman, un des grands hommes du 20e siècle pour l'étude de Voltaire, lance une édition de la correspondance... qu'il croit complète à ce moment-là, entre 53 et 64, qui paraît en 118 volumes, avec 5 volumes d'index.
5 volumes d'index.
Oui, tant il y a de correspondants, 14 à 1500 correspondants. Et il n'a pas encore fini la première édition de cette correspondance, que cette correspondance ayant fait surgir de partout des fonds d'archives, des collectionneurs, etc., de nouvelles lettres, il conçoit la nécessité d'en faire une nouvelle. Aux grandes dames, d'ailleurs, des bibliothèques qui avaient déjà acheté très cher les 118 volumes précédents, il lance la correspondance dite définitive, qui du reste ne l'est pas parce qu'on en a découvert d'autres depuis lors. Et cette fois-ci, il s'agit, ça fait partie des œuvres complètes par la Voltaire Foundation à Oxford, Il rassemble 45 gros volumes de 5 à 600 pages de lettres. Et c'est là qu'on arrive à un peu plus de 21 000 lettres, 21 300 environ, de et à Voltaire. Et cette correspondance ayant été éditée en anglais, puisque Besterman était anglais, en France, cette correspondance paraîtra partiellement, du moins, dans la Pléiade, sous la direction de... pas sous la direction, c'est l'œuvre de Frédéric Deloffre d'ailleurs, en ne reprenant que les lettres de Voltaire. Ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est un plaisir bien sûr de lire toutes les lettres de Voltaire. L'ennui, c'est qu'il a fallu bien entendu, dans les notes, citer pas mal de passages des lettres qu'il avait reçues pour qu'on puisse comprendre ce que Voltaire disait dans sa propre lettre.
Oui, parmi ces lettres, il y a notamment la très belle réponse de Rousseau à Voltaire, hein, réponse à la lettre que Voltaire lui adresse à l'occasion de du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, dit second discours, dont Voltaire dit, hein, pour mémoire, à Diderot, j'ai reçu Monsieur votre nouveau livre contre le genre humain, je vous en remercie. Vous plairez aux hommes à qui vous dites leur vérité et vous ne les corrigerez pas. On ne peut peindre avec des couleurs plus fortes les horreurs de la société humaine dont notre ignorance et notre faiblesse se promettent tant de consolation. On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de 60 ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes que vous et moi.
Oui. Ce n'est évidemment pas le premier échange de correspondance entre Rousseau et Voltaire, et cette lettre, qui est évidemment ironique, Voltaire ne partageant pas les thèses du second discours, montre surtout
c'est
que finalement,
dire, oui.
À l'époque, en 55, il a lu ça au fond de manière assez distraite. Il y reviendra par la suite de manière beaucoup plus sérieuse et ne cessera d'attaquer Voltaire et Rousseau sur ses théories. En fait, les rapports épistolaires de Voltaire et de Rousseau se réduisent à très peu de choses. La première lettre, et le point de départ, c'est Rousseau, date de 1745. À cette époque, pour le mariage de l'infant d'Espagne et de la dauphine en France, Voltaire et Rameau avaient été chargés de créer une pièce de circonstance, la princesse de Navarre. Et puis, pour une autre circonstance, on envisage de tirer de cette princesse de Navarre une autre mouture, et le duc de Richelieu, qui est l'organisateur des divertissements de la cour, et qui avait rencontré Rousseau, qui n'a alors que la réputation d'un musicien, il n'a encore rien écrit, le désigne pour faire, disons, les arrangements. Il doit rapetasser cette pièce pour en faire les fêtes de Ramire. Et Rousseau écrit au grand Voltaire, lui qui est totalement inconnu, une lettre extrêmement respectueuse et admirative d'ailleurs, pour lui demander ce qu'il peut faire sur son texte. Voltaire lui répond courtoisement d'ailleurs, en lui disant « écoutez, faites ce que vous voulez, moi je n'ai pas le temps de m'occuper de ça ». Et Rousseau va en effet aménager la musique et quelques vers, en tout cas, de Voltaire. C'est leur premier contact, où transparaît d'ailleurs la très grande admiration que Rousseau vouera toujours à Voltaire, qu'il a découvert dès l'époque des Charmettes, lorsqu'il lisait les lettres philosophiques en 1934. La deuxième occasion est plus anecdotique. Voltaire assiste à la représentation d'une de ses pièces, lorsqu'il avise un spectateur qui, obstinément, tient ses mains dans son manchon, signifiant par là, bien sûr, qu'il ne veut pas applaudir. Voltaire s'en vexe, bien entendu, s'informe et apprend que ce spectateur insolent s'appelle Rousseau. Le bruit s'en répand. Et aussitôt, Rousseau écrit pour dire « Attention, le Rousseau en question, c'est pas moi du tout. » C'était vrai, d'ailleurs, c'était Pierre Rousseau, le futur fondateur du journal encyclopédique. Et de nouveau, Voltaire lui répond courtoisement « Grâce à Dieu, monsieur, ne vous en faites pas. Je n'ai garde de confondre les Rousseaux. » Bien sûr, ceci est purement, au fond, anecdotique. Et puis, le premier vrai contact, c'est lorsque Rousseau envoie au maître Voltaire son discours sur l'origine des inégalités et qu'il en reçoit la lettre.
On est là en 1755.
En 1755, hein, second discours que vous venez de citer.
Rousseau est alors devenu Rousseau, puisqu'il a déjà publié son discours sur les sciences et les arts.
Et même d'autres choses aussi. Mais enfin, il est arrivé à une gloire déjà européenne, d'ailleurs, au début de 1951, avec ce premier discours sur les sciences et les arts.
Oui, qui lui donne l'occasion, d'ailleurs, déjà de s'en plaindre.
Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs là aussi qu'il reproche à Voltaire de céder à la tentation de plaire, plus qu'à dire des choses profondes, et à cette apostrophe que Voltaire n'avait pas dû apprécier tellement, « Dites-nous, célèbre à Rouet, combien de fois la tentation de plaire vous a empêché de dire des choses profondes, etc. » Bon. Rousseau répondra d'ailleurs à la lettre que vous venez de citer, d'une façon assez emberlificotée d'ailleurs, et on s'en tient là, jusque-là, pas de problème. Pas de véritable problème non plus en 58, lorsque Rousseau écrit la lettre à D'Alembert sur les spectacles, que Voltaire apprécie évidemment très peu, puisque Rousseau est adversaire de l'installation d'un théâtre à Genève. Mais il y a eu entre les deux, en 1956, il y a eu une lettre, celle-là, extrêmement importante. Voltaire a publié son poème sur le désastre de Lisbonne, qui a eu lieu le 1er novembre 1755 et qui a fait un nombre très élevé de victimes. Cet événement bouleverse Voltaire, parce qu'il pose une question, à ses yeux évidemment philosophique, si Dieu existe, Dieu est juste et bon. Alors, pourquoi cette catastrophe qui s'abat sur une ville du reste profondément catholique? Où est la Providence? Et le doute s'installe en Voltaire. Et son poème est en effet un poème en quelque sorte désespéré. Il ne comprend pas. Ce mal était-il une nécessité? Les voies de Dieu sont-elles à ce point impénétrables? Où est la Providence? C'est déjà le désespoir qui apparaîtra dans le poème de Victor Hugo, lorsqu'il parle de la mort de sa fille et ne comprend pas. Il faut, dit Victor Hugo, il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. Mais alors, où est Dieu?
Ô malheureux mortel, ô terre déplorable, ô de tous les mortels assemblage effroyable, d'inutiles douleurs éternelles entretien. Philosophe trompé qui criait « Tout est bien », accourait contempler ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants, l'un sur l'autre entassés, sous ces marbres rompus, ces membres dispersés. 100 000 infortunés que la terre dévore, qui, sanglants, déchirés et palpitants encore, enterrés sous leurs toits, terminent sans secours, dans l'horreur des tourments, leurs lamentables jours. Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes, au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes, direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois qui, d'un Dieu libre et bon, nécessite le choix? Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes? Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasés et sanglants? Lisbonne qui n'est plus, eut-elle plus de vices que Londres, que Paris, plongée dans les délices? Lisbonne est abîmée et l'on danse à Paris. Tranquilles spectateurs, intrépides esprits de vos frères mourants contemplant les naufrages, vous recherchez en paix les causes des orages. Mais du sort ennemi, quand vous sentez les coups devenus plus humains, vous pleurez comme nous. Croyez-moi, quand la terre entr'ouvre ses abîmes, ma plainte est innocente et mes cris légitimes. Que peut donc de l'esprit la plus vaste étendue? Rien. Le livre du sort se ferme à notre vue, l'homme étranger à soi, de l'homme est ignoré. Que suis-je, où vais-je et d'où suis-je tiré? Atome tourmenté sur cet amas de boue que la mort engloutit et dont le sort se joue, mais atome pensant, atome dont les yeux guidés par la pensée ont mesuré les cieux. Au sein de l'infini, nous élançons notre être sans pouvoir un moment nous voir et nous connaître. Ce monde, ce théâtre est d'orgueil et d'erreur et plein d'infortunés qui parlent de bonheur. Vous avez dit, Raymond Trousson, que la réponse de Rousseau, hein, la fameuse lettre sur la Providence du 18 août 1756 au poème sur le désastre de Lisbonne de Voltaire, était une belle réponse. À quel titre l'est-elle?
C'est-à-dire que Voltaire, dans ce grand poème philosophique, dont il se fait d'ailleurs une spécialité, comme dans les discours en vers sur l'homme, posait évidemment l'une des grandes questions qui se posait, non pas aux croyants orthodoxes, mais aux déistes. Si Dieu existe, alors d'où vient le mal? Et bien sûr, Voltaire connaissait, tout comme Rousseau d'ailleurs, les deux réponses qu'on avait données à cela. D'une part, celle de Leibniz, qui lui déclarait que Dieu avait créé le meilleur des mondes possibles, mais que ce monde n'étant qu'une création...
Précision est importante, hein, d'ailleurs. Le meilleur des mondes possibles, ce qui signifie chez Leibniz qu'en somme, c'est le seul monde possible. Mais ça, on reviendra dessus.
Bien sûr. Et... Cela signifiait pour Leibniz que la création n'étant qu'une création, elle était forcément entachée d'imperfection. Ce qui veut dire que c'est le meilleur des mondes, comme vous dites, possible, mais que le mal existe. L'autre réponse, qui, au moment du désastre de Lisbonne, indigne peut-être plus Voltaire, c'est celle du poète anglais Alexander Pope, qui avait dit dans une formule célèbre de son essai sur l'homme, « Tout ce qui est bien. Whatever is right. » Or, cette formule semble à Voltaire une sorte d'insulte à la misère humaine. Parce que si Leibniz, lui, admettait l'existence du mal en donnant une raison à cette existence, Pope semblait dire que le mal n'existe pas, n'est qu'une illusion, une vue de l'esprit. Or, devant le désastre qui frappe Lisbonne, comment peut-on soutenir une telle position ? C'est sur ce plan que va répondre Rousseau, puisqu'il s'agit ici, évidemment, de défendre ou d'attaquer ou de douter à propos de la providence. S'il y a une providence divine, comment s'explique alors le mal ? La réponse de Rousseau, c'est qu'au fond...
C'est de dire que voir le mal, c'est mal voir.
C'est mal voir et c'est surtout d'exonérer Dieu du mal pour en charger l'homme. C'est l'homme qui, finalement, dans sa liberté, est souvent responsable du mal physique et toujours responsable du mal moral. Et il explique, par exemple, conforme évidemment à ses idées sur l'origine de l'homme naturel, il explique, vous savez, il n'y aurait pas eu tant de morts si l'homme moderne n'avait pas entassé à Lisbonne des maisons de 6 étages. Et quand Voltaire s'indigne que le tremblement de terre soit tombé sur Lisbonne, Rousseau lui répond, mais enfin, monsieur, réfléchissez tout de même. Il faudrait donc, pour nous faire plaisir, Dieu ne crée des tremblements de terre que dans les déserts. Donc il y a une discussion sur cette notion de providence qui est fondamentale à la fois pour le déiste Voltaire et pour le déiste Rousseau.
Sans quitter votre sujet de Lisbonne, convenez par exemple que la nature n'avait point rassemblé là 20 000 maisons de 6 à 7 étages et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être nul. Combien de malheureux ont péri dans ce désastre pour vouloir prendre l'un ses habits, l'autre ses papiers, l'autre son argent. C'est ici quand même que la défense de Dieu confine à l'obscénité, Raymond Trousson.
Oui, d'une certaine manière. Mais ça fait partie d'une conception de la providence. Au fond, la providence est finalement acceptée de manière différente par Rousseau et par Voltaire. Mais pour Voltaire, je crois qu'il faut distinguer entre ce qu'on pourrait appeler une providence générale, c'est-à-dire que Dieu a, sur le monde qu'il a créé, un dessein global où les choses doivent fonctionner selon certaines règles immuables et éternelles, et qu'il n'y a pas de providence particulière. Ce que reprend d'ailleurs jusqu'à un certain point Rousseau en disant « il ne faut pas faire évidemment comme ces dévots qui confient à Dieu la garde de leur valise ». C'est-à-dire comme si Dieu se souciait de chaque individu en particulier. Il y a une providence globale. Alors, ce qui amène Voltaire au désespoir, c'est évidemment ce qu'il faut faire devant ces désastres. Et c'est pourquoi le dernier mot du poème sur le désastre de Lisbonne, c'est l'espérance. Qu'il n'a d'ailleurs introduit que sur la requête de ceux à qui il avait lu au délice ce poème et que ses auditeurs trouvaient trop dur. Il a donc laissé l'espérance, c'est-à-dire l'espérance en une autre vie, l'immortalité de l'âme.
Oui, l'espérance, laquelle... il faut le préciser ici, hein, l'espérance qu'il présente comme un vice. Il dit quand même ceci, Lisbonne est abîmée, l'on danse à Paris, tranquille, spectateur, intrépide, esprit, etc., etc. Il continue et à la fin de son poème, il dit, au Dieu qu'il adorait pour toute prière, je t'apporte au seul roi, seul être illimité, tout ce que tu n'as pas dans ton immensité, les défauts, les regrets, les maux et l'ignorance, mais il pouvait encore ajouter l'espérance.
C'est-à-dire, en effet, ce qui, en somme, peut consoler les hommes, c'est-à-dire l'idée d'une immortalité de l'âme sur laquelle Voltaire se montre très réservé. Pas comme Rousseau, qui, lui, au contraire, croit fondamentalement à l'immortalité de l'âme et qui dit qu'il souffrira, au fond, tous les maux de cette existence brève et passagère, dans l'espoir qu'en effet, en tant qu'homme juste, il sera récompensé dans l'au-delà. Ce sont donc deux positions de deux déistes, bien entendu, qui ne sont orthodoxes ni l'un ni l'autre, et qui, là, s'affrontent sur cette question fondamentale.
Revenons un instant sur ce que vous entendez par déisme, Raymond Trousson, avant de revenir également sur le contenu de cette lettre, parce que la densité philosophique de cet échange, malgré tout, est considérable. Revenons un instant sur ce qu'il faut entendre par déisme, en particulier chez Voltaire, Raymond Trousson. Déisme ou théisme, d'ailleurs.
En fait, disons que linguistiquement, c'est la même chose, puisque l'un des mots est latin et l'autre est grec. On a introduit au XVIIIe siècle certaines différences lorsqu'il s'agit, par exemple, de la divinité de Jésus.
Enfin, on ne parle pas de athéisme, on parle d'athéisme.
En effet, là, la formation est exclusivement grecque, avec l'alpha privatif. Mais Voltaire, contrairement à ce qui se dira couramment au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, Voltaire, bien entendu, n'a jamais été athée. Voltaire a toujours cru en l'existence d'un Dieu créateur et ordonnateur. Ça, c'est pour lui une certitude sur laquelle il ne revient jamais.
Et Voltaire est celui, d'ailleurs, à la lecture duquel on peut comprendre que la critique des religions ne passe pas nécessairement par l'athéisme.
Exactement.
Ce qui est essentiel à comprendre aujourd'hui, d'ailleurs, puisqu'on caricature le débat aujourd'hui. La question est de savoir qui est athée du point de vue des athées, c'est-à-dire lucide, et qui ne l'est pas, c'est-à-dire crédule, et par là même validerait les infamies commises au nom de Dieu.
Mais c'est ce qui engage évidemment le problème de la foi de Voltaire. Et ce mot même fait question pour Voltaire. Voltaire croit en Dieu parce que la croyance en Dieu lui semble rationnelle, raisonnable. L'existence du monde et sa merveilleuse organisation le démontrent. En revanche, il attribue à la foi, au sens général du terme, tout ce qui va déboucher sur ce qui dépasse la raison, le rationnel, et qui entraîne par conséquent à la superstition, à la bigoterie, et par là bien entendu au fanatisme et à l'intolérance. La foi de Voltaire est donc une foi rationnelle, son Dieu est un Dieu géomètre, c'est un Dieu horloger. Il y a deux vers célèbres d'ailleurs qui résument au fond cette position à l'égard des matérialistes athées. Il dit « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Si l'horloge, le monde, existe, il faut un Dieu artisan, un Dieu horloger. Ce que lui reprocheront bien entendu les matérialistes, et Grimm dans sa correspondance littéraire, puisque on se trouve là aux antipodes bien entendu de l'évolution de la création du monde, selon les matérialistes, par le hasard, le mélange des atomes, par l'évolution, le transformisme, etc. Position que Voltaire n'acceptera jamais.
Précisément, c'est ici qu'on touche du doigt peut-être un élément essentiel de la pensée de Voltaire. En particulier, par exemple, je crois que c'est dans l'article dans l'encyclopédie, l'article Nature, dans l'encyclopédie où il fait parler la nature. Il pousse finalement l'anthropomorphisme jusqu'à attribuer à la nature la fonction de parler et il lui fait dire « On me dit que je suis nature, en vérité, en moi, tout est art. » De sorte que Voltaire introduit un rapport de commensurabilité entre l'œuvre naturelle et l'œuvre humaine. S'il prolonge l'ambition anthropomorphique qui avait d'ailleurs, si on fait la généalogie de la croyance en Dieu, donné le jour à l'idée d'un Dieu à visage humain. C'est là que Voltaire reste profondément théiste, justement.
Bien sûr, et c'est précisément ce que lui reprocheront les matérialistes, c'est d'anthropomorphiser Dieu ou la nature ou ce qu'on voudra.
C'est comme s'il conservait finalement les termes de la croyance.
Mais il conserve les termes de la croyance parce que cela lui semble fondamental pour toute une série de raisons, pas seulement philosophiques, sociales aussi bien entendu, d'où la célèbre formule « si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Mais pour lui, ça se limite à ce qui est compréhensible, accessible à la raison. Or, il lui semble qu'un Dieu créateur, ordonnateur des mondes, ce Dieu horloger newtonien, est raisonnable. Et que c'est au contraire la position des matérialistes avec les atomes, le hasard, etc., qui ne tient pas debout.
Mais voyez, Raymond Trousson, on oppose bien souvent, dans une lecture un peu sommaire, qui tient aussi d'ailleurs pour partie au caractère sommaire des attaques que Voltaire formule contre Leibniz dans Le Candide. On tient en général Voltaire pour l'adversaire résolu de Leibniz, qu'on tient indûment pour un penseur résolu de l'optimisme. On va revenir sur tout ça quand on va parler des contes voltairiens. Il y a pourtant un lien très profond entre Voltaire et Leibniz. Quand Leibniz, par exemple, dans la monadologie, compare l'art de Dieu à l'art humain en expliquant que l'art de Dieu, finalement, diffère de l'art humain, du plus au moins, dans la mesure où Dieu perfectionne ses machines, dit-il, à l'infini, alors que les hommes, ne parviennent pas à cette infinité de perfection et qu'ils demeurent, finalement, dans les machines humaines, un élément de finitude. Il introduit un rapport de commensurabilité entre les deux. Quand Voltaire lui-même fait parler la nature, quand Voltaire reconduit la métaphore d'un dieu horloger, il est leibnizien.
Ah, dans ce sens-là, oui, bien sûr. Il en a d'ailleurs gardé des traces. Il reprochera, par exemple, à l'époque où il est à Cirey, il reprochera à sa compagne et maîtresse, Madame du Châtelet, de virer au leibnizianisme, alors que lui-même s'oriente finalement vers le newtonianisme, qui encourage évidemment cette conception d'un dieu horloger, d'un dieu algèbre mathématique.
Et ce dieu algèbre mathématique demeure, malgré tout, un dieu. Alors, Que reste-t-il dans ces conditions de la différence entre Voltaire et Rousseau entre celui qui, finalement, fait du tremblement de terre de Lisbonne, j'allais dire non pas une preuve de l'inexistence de Dieu, mais une preuve de l'absurdité qu'il y aurait à présumer en lui de la bonté, finalement une intention, et celui qui dit, en réponse au poème magnifique de Voltaire sur le désastre de Lisbonne, « Non, 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 monsieur, j'ai trop souffert en cette vie pour n'en pas attendre une autre. Toutes les subtilités de la métaphysique ne me feront pas douter un moment de l'immortalité de l'âme et d'une providence bienfaisante. »
Il y a là l'opposition, bien sûr, de deux caractères en même temps que de deux philosophies. La foi de Rousseau, qui est aussi un déisme, bien entendu, et qui a été, au XVIIIe siècle, aussi condamné que le déisme voltairien, est néanmoins une foi de ferveur, de chaleur, d'enthousiasme. Voltaire
qu'il faut
raisonne...
prendre ici étymologiquement.
Bien sûr.
L'enthousiasme étymologiquement.
Exactement. C'est l'afflatus divinus qui emplit l'âme du véritable croyant. Ce qui explique aussi, par exemple, l'idée que Rousseau se fait de la prière, qui ne peut jamais être une prière de demande, pas plus que chez Voltaire d'ailleurs, et qui raconte qu'un évêque avait rencontré une vieille femme qui ignorait les prières traditionnelles et qui ne savait dire que « Oh !» Et le brave évêque lui avait dit « Mais continuez comme ça, brave femme, c'est la meilleure prière que vous puissiez faire, c'est l'adoration de Dieu. » Il y a chez Rousseau, et ça c'est une affaire de tempérament, de caractère, il y a une ferveur, une chaleur, un enthousiasme qui du reste inquiète Voltaire. Voltaire se défie de l'enthousiasme, parce que l'enthousiasme conduit au fanatisme. Et il se défie même de l'enthousiasme au plan de la création. L'enthousiasme, dit-il, et là il le dit au plan de la poésie, l'enthousiasme doit être raisonnable. Curieux paradoxe, qu'est-ce que c'est qu'un enthousiasme raisonnable ?
Raymond Trousson est l'invité unique des Nouveaux Chemins de la Connaissance à l'occasion d'une semaine que nous consacrons à Voltaire. Cet enthousiasmant n'en déplaise à Voltaire, et je le dis de façon déraisonnable, cet enthousiasmant de parler du grand Voltaire avec vous, Raymond Trousson, qui êtes l'auteur d'une biographie de Voltaire parue en 2008 chez Talendier. On a évoqué la correspondance de Voltaire et de Rousseau, l'épisode de 1745, l'épisode de 1755, le second discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, le discours, dit Voltaire, contre le genre humain, 1758, et puis entre les deux, le poème sur le désastre de Lisbonne et la réponse de Rousseau, c'est-à-dire la lettre sur la Providence. Encore une question sur ce point. Voltaire et Rousseau sont quand même, tous les deux, c'est un lieu commun de le dire, des hommes des Lumières. Or, qu'est-ce qui caractérise finalement les hommes des Lumières ? C'est que en un sens, je ne sais pas ce que vous en pensez, ils prennent au sérieux ce à quoi ils adhèrent. À aucun moment, Voltaire, pourtant pétri d'ironie et remarquable dénicheur d'hypocrisie, en particulier chez les bigots, ne soupçonne chez Rousseau comme chez Leibniz la possibilité d'un doute. C'est comme s'il prenait au sérieux la foi de Rousseau, la foi de Leibniz. Il ne fait jamais le travail du généalogiste que sera Nietzsche, s'inspirant d'ailleurs de Voltaire, consistant à dire, en somme, le besoin d'une foi puissante n'est pas la preuve d'une foi puissante, mais plutôt son contraire. À aucun moment, Voltaire n'attaque Rousseau sur le fait que, s'il croit tellement en Dieu, c'est d'abord parce qu'il en doute. De la même façon que, si Leibniz est tellement optimiste, c'est d'abord parce qu'il est désespéré.
Mais c'est pourquoi d'ailleurs Rousseau...
Enfin, il manque une dimension tragique à tout cela, voilà.
Oui, mais chacun défendant évidemment ses convictions. Voltaire reproche aussi à Rousseau de s'être dit ouvertement chrétien. Mais alors qu'il estime que, compte tenu de son déisme et des attaques violentes d'ailleurs de Rousseau contre les religions révélées dans les Lettres de la Montagne ou dans la profession de foi du vicaire savoyard, en réalité il ne l'est pas. C'est ne pas tenir compte de ce que Voltaire disait à Christophe de Beaumont. « Monseigneur, je suis chrétien, non pas à la manière des prêtres, mais des disciples de Jésus-Christ. » C'est-à-dire que, d'emblée, Rousseau s'excluait à la fois du protestantisme et du catholicisme, ce qui explique qu'on lui est tiré dessus des deux côtés, bien entendu, et aussi en adversaire du matérialisme. C'est une chose que Voltaire ne comprend pas. Ce christianisme, cette figure de Jésus, dont il dira lui-même d'ailleurs d'avoir beaucoup de mal, bien sûr, puis quand même un peu plus de bien vers la fin de sa carrière, ne lui apparaît pas comme à Rousseau cette figure, non pas d'un dieu, car Rousseau non plus ne croit pas à la divinité du Christ, mais ce sage supérieur même à Socrate, dont la prédication est toute de bonté, de douceur, de justice. Il n'a pas cet élan de chaleur, de ferveur qui caractérise la personnalité de Rousseau. Il reste, lui, beaucoup plus rationaliste. Et il n'aime pas ces débordements. Ces débordements peuvent amener à des excès qui, pour lui, sont regrettables parce qu'ils s'écartent justement de la raison, débouchent sur la superstition et de la superstition à la persécution.
Au fond, la véritable différence entre Voltaire et Rousseau, c'est l'humour ou l'ironie, peut-être.
Il est certain que Rousseau manie l'ironie rarement et certainement beaucoup moins bien que Voltaire.
Ça, il le fait, à ma connaissance, à une seule occasion. C'est quand il répond à Voltaire, justement.
Oui, et vous pouvez constater que son ironie, à ce moment-là, il essaie de rattraper un peu le genre Voltaire et c'est assez pâteau. Ce n'est pas du tout la légèreté, la finesse et la rapidité de Voltaire.
Il en est un qui lui manie l'ironie à foison et avec un génie consommé, c'est Diderot. Mmh. Et c'est de lui que nous allons parler maintenant. Je vous remercie, monsieur, du livre ingénieux et profond que vous avez eu la bonté de m'envoyer. Je vous en présente un qui n'est ni l'un ni l'autre, mais dans lequel vous verrez l'aventure de l'aveugle né plus détaillée dans cette nouvelle édition que dans les précédentes. Je suis entièrement de votre avis sur ce que vous dites des jugements que formeraient en pareil cas des hommes ordinaires qui n'auraient que du bon sens et des philosophes. Je suis fâché que dans les exemples que vous citez, vous ayez oublié l'aveugle né qui, en recevant le don de la vue, voyait les hommes comme des arbres. Quelque chose que vous soyez, vous êtes une partie bien estimable de ce grand tout que je ne connais pas. Je voudrais bien, avant mon départ pour Lunéville, obtenir de vous, monsieur, que vous me fissiez l'honneur de faire un repas philosophique chez moi avec quelques sages. Je n'ai pas l'honneur de l'être, mais j'ai une grande passion pour ceux qui le sont, à la manière dont vous l'êtes. Comptez, monsieur, que je sens tout votre mérite, et c'est pour lui rendre encore plus de justice que je désire de vous voir et de vous assurer à quel point j'ai l'honneur d'être, etc. La lettre ici que je viens de lire est une lettre de 6 ans d'ailleurs antérieure à celle plus méchante, plus féroce qu'il envoie à Rousseau. C'est une lettre de Voltaire à Diderot à propos de la lettre sur les aveugles. On est là en 1749. On se dit a priori que Voltaire et Diderot ont plus et mieux à se dire que Voltaire et Rousseau. Et ça n'est pas forcément le cas, Raymond Trousson.
Non, en effet. Et la lettre que vous citez est en effet la réponse et le remerciement de Voltaire à l'envoi de la lettre sur les aveugles, qui allait, juste après d'ailleurs, expédier Diderot au donjon de Vincennes. Et Voltaire fera d'ailleurs une première manœuvre à l'avantage de Diderot. Il convaincra sa maîtresse, Madame du Châtelet, qui était parente du gouverneur du donjon de Vincennes, de faciliter un petit peu les choses aux prisonniers Diderot. Qu'il appelle déjà Platon, d'ailleurs, en raison de son universalisme, de la philosophie. Le problème, c'est que, dès le début, Voltaire, vous le voyez en effet dans la lettre que vous venez de citer, semble souhaiter une rencontre, un contact, une discussion. Plus tard, il dira à un ami commun de Voltaire et de Diderot, d'ailleurs, d'Ami Laville, qu'au fond, il aurait suffi, avec Diderot, d'une rencontre d'un quart d'heure pour se mettre d'accord. Je crois qu'il leur aurait fallu beaucoup plus d'un quart d'heure pour les mettre d'accord. Parce qu'il va de soi que, dans la lettre sur les aveugles, Voltaire ne peut pas accepter la profession de foi nettement matérialiste que Diderot met dans la bouche de l'aveugle Sanderson dans sa confession au pasteur Holmes. Il y a d'emblée...
Je vous avoue, dit-il, que je ne suis point du tout de l'avis de Sanderson qui nie un dieu... Parce qu'il est né aveugle, je me trompe peut-être, mais j'aurais à sa place reconnu un être très intelligent qui m'aurait donné tant de suppléments de la vue et en apercevant par la pensée des rapports infinis dans toutes les choses, j'aurais soupçonné un ouvrier infiniment habile.
Ben, vous mettez le doigt évidemment sur la différence fondamentale, puisque Sanderson, dans la lettre sur les aveugles, explique au pasteur Holmes que lui ne peut pas avoir la démonstration de l'existence de Dieu par l'existence du monde, puisqu'il ne le voit pas. Aussi lui dit-il, cette phrase que Voltaire ne peut évidemment pas accepter, « Si vous voulez que je croie en Dieu, il faut que vous me le fassiez toucher. » Et on ne peut pas toucher Dieu, bien entendu.
Mais en même temps, dans la réponse extraordinaire du 11 juin 1749 que Diderot adresse à Voltaire, en réponse à cette lettre à la fois aimable et en même temps polémique, dans la réponse extraordinaire, cette leçon de philosophie matérialiste que Diderot envoie à Voltaire, cette leçon se termine. Et alors là, pour le coup, on est sorti d'un climat rousseauiste, c'est-à-dire du climat d'un homme qui tient la contradiction pour une offense. Cette lettre se termine par l'idée que, dit Diderot, il est très important de ne pas prendre de la ciguë pour du persil, mais nullement de croire ou de ne pas croire en Dieu. Le monde, disait Montaigne, est un estoffe qu'il a abandonné à peloter aux philosophes, et j'en dis presque autant de Dieu même. Adieu, mon cher maître.
Oui, et il disait juste avant, d'ailleurs, je vis très bien avec des athées.
Eh oui.
Donc, il y a là d'emblée une opposition radicale. Alors, qu'est-ce que Voltaire... que Diderot...
Opposition radicale, tempérée par le fait que ça ne les empêchera pas de s'entendre.
Jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que tous deux, bien entendu, sont des combattants des Lumières. Ils combattent l'influence du clergé. Ils veulent désacraliser la foi, tuer la superstition, empêcher la persécution, etc., etc. Il y a un programme commun qui est celui des Lumières. Mais seulement jusqu'à un certain point. Parce qu'il ne faut pas oublier que si toute sa vie, Voltaire a lutté contre l'Église, la superstition, etc., à partir de 1767 environ, et surtout en 1770, lorsque le baron d'Holbach, qui est un collaborateur de l'Encyclopédie et un ami de Diderot, publie son Système de la nature, qui est une véritable bible du matérialisme, Voltaire ouvre à ce moment-là un second front. Et il ne se montre pas moins hostile aux matérialistes et aux athées qu'il ne l'était aux dévots. Il y a donc là une espèce de dépassement du vieux Voltaire par une aile beaucoup plus avancée des Lumières, et qui ne peut pas suivre.
Et en même temps, il finira à la fin par appeler à la réconciliation des différentes tendances. On oppose bien souvent Voltaire et d'Holbach, ou la Lamettrie d'ailleurs, comme le théisme au matérialisme, et certains exégètes des Lumières d'ailleurs opposent de façon frontale ces Lumières radicales aux Lumières social-démocrates, pour le dire autrement. Et pourtant, Voltaire terminera son existence en souhaitant que les deux se réconcilient, non ?
Mais c'est-à-dire qu'il a toujours souhaité, en effet, que les philosophes ne soient pas désunis. Il faut, disait-il dans certaines de ses lettres, que les philosophes marchent unis comme la phalange macédonienne. S'ils sont unis, ils peuvent vaincre. S'ils sont divisés entre eux, évidemment, ils affaiblissent leurs forces et le grand ennemi, l'Église, va triompher. Mais il va de soi qu'entre les conceptions matérialistes radicales d'un Diderot et le déisme voltairien, il n'y a pas de conciliation possible.
Néanmoins, les philosophes doivent être unis, et c'est également la raison pour laquelle Voltaire, le 23 juillet 1766, invite Diderot, en pleine bataille pour l'encyclopédie, à trouver refuge à la cour de Frédéric II, roi de Prusse, dont on va parler un peu tout à l'heure. Mais voici néanmoins la réponse que Diderot fit à Voltaire. Je sais bien que quand une bête féroce a trempé sa langue dans le sang humain, elle ne peut plus s'en passer. Je sais bien que cette bête manque d'aliments et que, n'ayant plus de jésuites à manger, elle va se jeter sur les philosophes. Je sais bien qu'elle a les yeux tournés sur moi et que je serai peut-être le premier qu'elle dévorera. Je sais bien qu'un honnête homme peut en 24 heures perdre ici sa fortune parce qu'ils sont gueux, son honneur parce qu'il n'y a point de loi, sa liberté parce que les tyrans sont ombrageux, sa vie parce qu'il compte la vie d'un citoyen pour rien et qu'ils cherchent à se tirer du mépris par des actes de terreur. Je sais bien qu'ils nous imputent leur désastre parce que nous sommes seuls en état de remarquer leur sottise. Je sais bien qu'un d'entre eux a l'atrocité de dire qu'on n'avancera rien tant qu'on ne brûlera que des livres. Je sais bien qu'ils viennent d'égorger un enfant pour des inepties qui ne méritaient qu'une légère correction paternelle. Je sais bien qu'ils ont jeté et qu'ils tiennent encore dans les cachots un magistrat respectable à tous égards parce qu'il refusait de conspirer à la ruine de sa province et qu'il avait déclaré sa haine pour la superstition et le despotisme. Je sais bien qu'ils en sont venus au point que les gens de bien et les hommes éclairés leur sont et leur doivent être insupportables. Je sais bien que nous sommes enveloppés des fils imperceptibles d'une masse qu'on appelle police et que nous sommes entourés de délateurs. Je sais bien que je n'ai ni la naissance, ni les vertus, ni l'état, ni les talents que recommander Monsieur de la Chalotais et que, quand ils voudront me perdre, je serai perdu. Je sais bien qu'il peut arriver, avant la fin de l'année, que je me rappelle vos conseils et que je m'écris avec amertume au Solon, Solon. Diderot sait tout cela, et pourtant, il ne viendra pas.
La lettre que vous venez de lire est évidemment une admirable lettre pleine de courage et d'honnêteté morale et philosophique. La lettre date de 66 et on comprend l'effroi de Voltaire. À ce moment, c'est en 66 d'ailleurs que paraissent d'un seul bloc les 10 derniers volumes de l'encyclopédie qui avaient été interdites antérieurement, en 59. Et ici, la situation est particulièrement grave. Il fait allusion, en fait, à l'exécution du jeune chevalier de la Barre qui avait été exécuté à 19 ans pour ne pas s'être découvert au passage d'une procession. Et Voltaire voit là, d'autant plus que avec les restes du chevalier de la Barre, on a brûlé un exemplaire du dictionnaire philosophique qui avait été trouvé chez le dit chevalier.
Et quelques ouvrages libertins. Qui n'arrangeaient pas son cas.
Bien sûr. Mais la présence du dictionnaire philosophique, évidemment, et son brûlement, avertissait Voltaire qu'à son avis, il se préparait une nouvelle croisade contre les philosophes. Donc, il conseille à Diderot de venir terminer l'encyclopédie dans un pays libre, comme il dit, c'est-à-dire à Clèves, qui dépendait de Frédéric II, soit éventuellement, comme le proposait Catherine, à Riga, où il devrait également patronner l'encyclopédie. La conduite de Diderot, vous le voyez, d'un admirable courage, c'est vraiment un intellectuel de combat et un intellectuel de choc. Voltaire, au contraire, lui, effrayé par le brûlement du dictionnaire philosophique, ira prudemment prendre pendant quelque temps les eaux à Rolles pour se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites qu'il redoute. Seulement, il ne faut pas oublier non plus que si Voltaire apprécie le courage de Diderot indiscutablement et s'il admire l'encyclopédie, il n'est pas très chaud pour l'encyclopédie. Bien entendu, on va le solliciter. Il donnera entre 53 ou 54 et 58 un certain nombre d'articles qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec la philosophie ou la théologie.
En somme, il doute de l'efficacité de l'encyclopédie.
Exactement.
Tout le sens du dictionnaire philosophique dont on va parler demain. Ça. Allez-y, Raymond Trousseau.
Exactement. C'est-à-dire, il dit d'ailleurs, ce ne sont jamais de gros infolios qui feront une révolution. Si l'évangile avait coûté 1200 sesterces, le christianisme ne se serait jamais répandu. Ce qu'il faut, ce sont des brochures à 30 sous. Vous voyez la différence. L'encyclopédie est une énorme masse et Voltaire doute d'abord de sa qualité de persuasion. Il trouve qu'il y a là-dedans beaucoup trop d'articles inutiles, que certains sont trop touffus, d'autres mal écrits, d'autres trop longs. Alors que Voltaire est l'homme de la concision, l'homme qui est capable de résumer un infolio en 10 lignes. Il voudrait que l'encyclopédie soit aussi plus combative sur les plans qui l'intéressent. À quoi on lui fait observer évidemment que c'est pas si facile que ça, parce que l'encyclopédie, du moins à l'origine, paraît avec privilège gouvernemental, ce qui fait qu'elle est sous l'œil de la censure et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. D'Alembert, d'ailleurs, dit à Voltaire à ce moment-là, vous savez, la postérité verra bien qu'il y a une différence entre ce que nous disons et ce que nous pensons. Mais Voltaire n'apprécie pas cette forme de combat qui lui semble finalement très inefficace, parce que l'encyclopédie, vu son prix d'ailleurs, est limitée à une élite qui, au fond, est déjà convaincu d'avance. Ce n'est donc pas véritablement un ouvrage de combat, alors que son dictionnaire philosophique portatif...
C'est ce que j'allais vous dire, oui. Portatif. Au fond, Voltaire est l'inventeur du livre de poche.
Oui, absolument. C'est lui qui dit d'ailleurs, à notre époque, il faut tout mettre en dictionnaire, parce qu'il y a trop de choses, trop d'idées, trop de livres, et que le dictionnaire a cet avantage de rassembler cette matière en un volume, disons, maniable. Encore une fois, on retrouve là le pragmatisme de Voltaire dans le combat. Il veut une action. D'où sa réflexion à propos de Rousseau, d'ailleurs. Jean-Jacques n'écrit que pour écrire, et moi j'écris pour agir.
Non seulement son pragmatisme, mais également une certaine forme paradoxale d'héritage stoïcien chez Voltaire, qui après tout ne concevait les stoïciens, ne concevait les ouvrages, qui en général étaient des comptes rendus de cours d'ailleurs,
oui.
que comme des manuels, au sens littéral du terme. Ça devait tenir dans la main.
Oui, en effet, mais Voltaire en effet a pratiqué ça toute sa vie, à côté d'ouvrages très considérables et très longs. Il a écrit un nombre incroyable de petites œuvres qui tiennent en quelques pages, mais qui frappaient les esprits, précisément par leur concision. On ne s'embarrassait pas d'une érudition qui encombrait les esprits qui ne servait à rien. On allait droit au but avec la concision, l'ironie, le sarcasme, le paradoxe.
Alors, il y a parmi les destinataires de Voltaire l'un dont, malheureusement, nous avons peu de temps pour parler. Pourtant, Dieu sait s'il est important. C'est Frédéric II de Prusse, dit Frédéric le Grand.
Ce n'est pas Voltaire qui a pris contact avec Frédéric II. C'est le prince héritier Frédéric, qui en 1736 prend contact avec le grand Voltaire, dans une lettre qui est d'ailleurs faite pour remplir Voltaire de satisfaction. Il se présente en humble disciple. Il a tout lu de Voltaire, il l'admire. Il n'est lui qu'un prince, il ne sera jamais qu'un roi. Et c'est des hommes comme Voltaire qui feront la notoriété des rois devant la postérité. Il se présente donc en disciple, et bien entendu, Voltaire ne tarde pas à répondre sur le même ton, les deux hommes s'hypostasient mutuellement. De la même façon que Voltaire est le dieu de la littérature et de la philosophie, eh bien, immédiatement, Frédéric, c'est Trajan, c'est Marc Aurèle, c'est Socrate, c'est tout ce qu'on voudra. Il y a là une idéalisation à la base qui est encore renforcée par le fait que le prince héritier prépare un ouvrage dont s'occupera d'ailleurs Voltaire et pour le corriger et pour le...
L'anti-Machiavel.
L'anti-Machiavel. Alors imaginez, au siècle du despotisme, imaginez un prince qui écrit un anti-Machiavel. Eh bien voilà, Voltaire a découvert l'oiseau rare, celui qui sera le despote éclairé possible.
Votre livre, sire, doit être comme vous, il doit plaire à tout le monde. Vos plus petits sujets vous aiment, vos lecteurs les plus bornés doivent vous admirer. Et Voltaire s'extasie du fait que ce soit la main d'un roi qui soit capable d'écrire une chose pareille.
Bien entendu. Bon, les choses tourneront mal d'ailleurs pour cette édition, mais ça c'est une autre affaire. Frédéric II, devenu roi en 1740, n'aura de cesse d'attirer Voltaire à sa cour. Voltaire le rencontrera à 3 ou 4 reprises, d'ailleurs en 40 et en 42. Et puis finalement, en 1749, se produit la mort de Madame du Châtelet, qu'il avait toujours retenue par ses basques, en imaginant les risques qu'il courait à la cour de Frédéric.
Oui, que Frédéric II détestait d'ailleurs.
Et que Frédéric détestait précisément parce qu'elle avait sur Voltaire une considérable influence. Et puis, bon, en septembre 49, Madame du Châtelet meurt. Voltaire se trouve en butte à toute une série d'avanies de la part de rivaux, de journalistes. À la cour, on lui préfère Crébillon. Et au contraire, Frédéric lui offre de venir là où il sera véritablement le roi Voltaire. Il cède donc à la tentation et en juillet 1750, il arrive à Berlin et à Potsdam. Alors, au début, tout nouveau, tout beau, bien entendu. Il est accueilli en effet comme le maître des lettres de la philosophie. Et puis très vite, les choses vont se gâter, parce que Voltaire est un esprit combattant, il n'apprécie pas la tyrannie ni l'arbitraire, il pratique aussi d'ailleurs l'art de se créer des ennuis et de se mettre tout le monde à dos. Et très vite, des choses vont grincer. D'abord, il a une querelle avec un de ses anciens disciples, d'ailleurs, Baculard d'Arnaud, et obtient de Frédéric qu'il renvoie le Baculard. Puis, il a un problème parce qu'il se mêle d'une histoire qui ne le regarde pas. Frédéric organise une grande réception diplomatique avec nombre d'ambassadeurs, sauf l'ambassadeur de Russie. Il avait évidemment des raisons pour ça. Voltaire, lui, il croit un simple oubli, et au lieu de se mêler de ses affaires, il va convaincre l'ambassadeur à se rendre. Bon, Frédéric n'apprécie pas. Ensuite, Voltaire a un procès pour une histoire assez scabreuse, d'ailleurs assez complexe, avec un commerçant diamantaire juif, Abraham Hirschel. Et Frédéric apprécie encore moins, car Voltaire est chambellan du roi de Prusse. Or, à l'époque, avoir un procès public avec un juif, c'est infamant. C'est clair. Donc, assez rapidement, Frédéric trouve que Voltaire le prend quand même un peu à son aise et il le rappelle à l'ordre. Tout ça n'est pas encore très grave, bien entendu. Mais va alors arriver la grande querelle avec Maupertuis. Louis Moreau de Maupertuis était un grand savant. Il avait fait partie en 1736 de l'expédition envoyée en Laponie pour mesurer un arc du méridien pour savoir si la Terre était bien un sphéroïde aplati aux deux pôles, pendant que la Condamine faisait la même vérification au Pérou. Et d'ailleurs, un peu grâce à Voltaire aussi, Maupertuis était allé chez Frédéric, qui l'avait fait président de son académie à Berlin. Or, Maupertuis n'aime pas beaucoup Voltaire. Voltaire n'aime pas trop non plus Maupertuis, puisqu'il avait été l'amant de Madame du Châtelet avant qu'elle se décide véritablement pour Voltaire lui-même.
Ce que je vais faire, Raymond Trousson, est épouvantable. C'est une première dans les nouveaux chemins de la connaissance. Je suis obligé de vous interrompre en plein milieu de votre histoire, car François Connac menace de couper à la hache, au montage, notre conversation, qui déjà dépasse le temps qui doit être le sien. Restons sur Maupertuis, on repart de cela demain, en votre compagnie. Un grand merci, Raymond Trousson. Un grand merci donc, Raymond Trousseau. On vous retrouve demain et on repart de Maupertuis, c'est promis. Hein. Je cite très rapidement, hein, tout de même, comme tous les jours, votre biographie de Voltaire parue en 2008 aux éditions Talendier. La correspondance de Voltaire, les 22 000 lettres de Voltaire. Je signale d'ailleurs le gros livre Correspondance choisie, une correspondance annotée et choisie par Jacqueline Elguark, paru en 97 dans la Pochothèque. C'est très pratique. Outre les rapports de Voltaire avec Frédéric II, demain nous parlerons du dictionnaire philosophique de Voltaire, le dictionnaire portatif. À la technique, aujourd'hui, c'est Jean-Richard Dufour. À la réalisation, François Connac, le hacheur François Connac. Assistant et collaboration, Geneviève Méric, Adèle Van Red, Jennifer Murzo, Florence Malfatto. France Culture, 17h50. Tout de suite, le regard d'Albert Jacquard.